Inflation des États-Unis. De bonnes surprises, oui, de bonnes surprises sont à attendre pour la rentrée et devraient favoriser un pivot de la Fed à la même période. Chers amis, je suis ravi de vous retrouver, nouvelle édition du Top Gun. Nous sommes le lundi 5 août 2024. Inflation américaine, la semaine dernière, la réserve fédérale de Jérôme Powell, qui a ouvert, entrouvert, la porte à un pivot lors de la réunion du 18 septembre ou peut-être du mercredi 7 novembre, a rappelé que certes, l'inflation américaine avait repris, la désinflation a repris, des progrès ont été enregistrés, mais ils ne sont pas suffisants. Tous mes indicateurs avancés d'inflation, en tout cas la grande partie d'entre eux, m'indiquent que les prochains chiffres qui seront publiés en août, en septembre et en octobre seront très favorables. C'est vrai qu'il y a eu sur la dernière mise à jour du PCE, vous savez, l'inflation US, le PPI, le PCE, le CPI. Non mais prenez le temps, s'il vous plaît, de regarder la vidéo jusqu'au bout. Il y a 15-20 minutes sur mes indicateurs avancés d'inflation. Et vous allez voir que certains sont en train de s'effondrer. Ils s'effondrent. Alors me direz-vous, pourquoi? Pourquoi l'inflation est encore jugée trop haute à 2,5 par la Fed? Parce que l'inflation en temps réel, mes indicateurs avancés sont ceux de l'inflation en temps réel, mettent en fonction des composantes, entre un mois à deux trimestres, pour arriver dans l'inflation officielle. Donc en ayant un œil averti sur l'inflation en temps réel, nous pouvons nous projeter. Et donc petit à petit, ces données temps réel que je vais vous montrer, pour la composante immobilier, inflation alimentaire, énergie, prix des voitures, prix des assurances, prix des services, prix des biens durables, entre août, les chiffres août concernent juillet, entre août et octobre, ils vont petit à petit arriver dans l'inflation officielle. N'oubliez pas le décalage. La prochaine mise à jour de l'inflation US, c'est le CPI le 14 août, mais ça concerne juillet. Donc moi, mon inflation temps réel, le temps qu'elle arrive, ce sera peut-être les chiffres de septembre ou d'octobre. Et ça rejoint les dates où la Fed pourrait pivoter, 18 septembre ou 7 novembre. Moi, peut-être, je dirais plus 7 novembre. Passage, mon anniversaire, 42 ans. Bon. Et donc, vous avez quand même noté la semaine dernière, au moins jusqu'au rapport NFP, les taux d'intérêt. Nous sommes vus à la conférence Swissquote, où j'ai parlé des obligations. Quelle belle hausse des obligations depuis juin, grâce aux signaux techniques baissiers qu'ont donné les taux obligataires du marché, qui eux sont connectés à l'inflation en temps réel. Alors attention, nous n'avons pas encore les cassures baissières hebdomadaires. Mais cela viendra lors des prochaines semaines. J'espère que vous avez eu le temps d'arbitrer une partie de votre portefeuille en faveur des obligations qui poursuivent leur renversement aussi, bien construit sur le plan technique. Donc nous allons aussi parler de tout ça. Je vais aussi bien sûr vous faire un topo sur le marché actions, les indices boursiers américains. Mais là, c'est une émission spéciale, indicateur avancé de l'inflation, où moi j'estime que la rentrée devrait réserver cette fois-ci de bonnes surprises, alors que plus personne ne les attend. Le consensus est à nouveau pessimiste sur les chiffres de l'inflation d'août et septembre. Même je leur dis, mais peut-être qu'ils n'ont pas que ça à faire de regarder les indicateurs dérivés de l'inflation en temps réel. Ils n'ont peut-être pas le temps. Ben moi, j'ai le temps. Donc, c'est ce que je vais vous montrer dans cette nouvelle édition du Top Gun Inflation américaine. La rentrée devrait voir de bonnes surprises. C'est un travail un peu fastidieux que nous allons faire, parce qu'on va tous les passer en vue, enfin tous en grande partie. J'espère que cela vous plaît. Première partie, on commence par la base, l'état des lieux. Selon le PCE, le CPI et le PPI, l'état des lieux de l'inflation américaine. Deuxième partie, inflation US, les mois d'août et septembre devraient réserver de bonnes surprises. C'est là où je vais vous montrer donc mes indicateurs temps réel. J'ai tout rassemblé dans un tableau, puis on va les regarder un par un. Troisième partie, les taux obligataires continuent de donner des signaux techniques baissiers. Et j'espère que vous avez pu arbitrer une partie de votre portefeuille en faveur des obligations. Rappelez-vous la corrélation inversée entre les taux obligataires du marché et le prix des obligations. En forte hausse depuis la Swissquote Trading Day à Lausanne. Indice boursier américain, tour d'horizon technique après les résultats du S&P 07, les GAFAM qui ont publié leurs résultats la semaine dernière, mais on va aussi parler des small et mid cap, des secteurs, voilà donc le programme de cette nouvelle édition du Top Gun. Et on commence par inflation américaine, état des lieux avec le PCE, le CPI et le PPI. Alors, on revient dans le passé. En décembre dernier, tout le monde s'emballait, décembre 2023, même la Fed parlait de baisse de taux. Et puis, manque de peau, janvier, février, mars, avril, mai, rebond de l'inflation. Depuis avril-mai, reprise de la désinflation. À nouveau, lueur d'espoir. La Fed, la semaine dernière, nous dit, oui, elle constate les progrès en matière de reprise de la désinflation, mais sa confiance n'est pas jugée suffisante. Voici le communiqué de presse. Alors, je vous mets simplement ici en évidence les éléments. Alors, la Fed nous dit deux choses. D'une part, le taux de chômage a certes monté, mais il reste bas. Mais cela rappelle que désormais, la Fed, dans son communiqué et même dans la conférence de presse, mentionne le chômage américain dans sa volonté ou pas de pivoter, donc en plus de l'inflation. Elle reconnaît l'inflation, les progrès de la désinflation, mais elle reste encore élevée. En clair, la Fed nous dit qu'elle reste data dependent, elle n'a pas encore la confiance pour pivoter, donc les chiffres d'août-septembre seront majeurs. Et moi, mes indicateurs avancés me disent qu'on aura des bonnes surprises, surtout sur le CPI. Dans cette vidéo, je vais décomposer avec vous toutes les composantes du PCE et du CPI. Vous allez voir, le poids relatif des composantes n'est pas la même. Et pour chacune des composantes, nous allons aller voir l'inflation temps réel, qui, je vous rappelle, met entre un mois et deux trimestres à arriver dans l'inflation officielle. Donc là, on se projette sur les 3-6 prochains mois. Et moi, je pense que donc ce sont des bonnes nouvelles qui arrivent. Alors déjà, état des lieux de base, l'inflation selon le PCE, le CPI, le PPI. Pour le PPI, on est revenu au monde d'avant. Pas de stress, l'inflation, les prix à la production, nous sommes revenus au monde d'avant. Ici, vous l'avez en version nominale et en version sous-jacente. Pour le CPI, la tendance baissière a donc repris, notamment pour le CPI sous-jacent. Donc ça, c'est les progrès, mais nous ne sommes pas encore au niveau, et en partie à cause de l'inflation immobilière qui est encore très haute, mais vous allez voir que pour l'inflation immobilière, tous mes indicateurs avancés me disent que c'est certain que nous allons revenir au monde d'avant sous 6 mois. Et là où, par contre, le doute subsiste, l'inflation des services, où là les choses sont effectivement moins certaines, en particulier le prix des assurances, qui a un point très important. Et regardez ce que je suis allé vous chercher, les composantes, là c'est précis, hein. J'ai pour chaque catégorie, donc, le poids dans le CPI et dans le PCE. Et donc, beaucoup ont pu se dire, ont pu être déçus du fait que le PCE, certes, la tendance baissière a repris, mais on aimerait que la pente soit plus verticale à la baisse pour revenir au monde d'avant. Nous sommes encore à 2,5 et 2,6 en version nominale et sous-jacente. Et cela est dû en grande partie au poids des frais de santé, au poids des frais de santé dans le PCE, 20%, et aussi au poids des assurances, parce que les assureurs se gavent. Ce qui est incroyable, c'est que l'inflation des nouvelles voitures est négative. Le taux d'inflation annuel des voitures est négatif depuis 4-5 mois. En théorie, avec le temps qui passe, quelques mois, voire davantage, le prix des assurances s'aligne. Ben non, on a encore chaque mois 20% d'inflation des assurances, parce que les assureurs se gavent. Ils jouent pas le jeu de la désinflation. Ça, malheureusement, on ne peut pas les forcer à moins de faire une loi. Et le problème, c'est que c'est 8%. Ouais, c'est 8% du PCE, j'y viens. Donc, ça, ce sont un peu tous les éléments que nous allons regarder ensemble. Donc, déjà, l'état des lieux, la désinflation est en cours, mais nous ne sommes pas encore à l'objectif. Et idem pour le CPI, avec des composantes, certaines composantes qui interrogent, notamment les services et l'immobilier. Alors, maintenant, regardons mes indicateurs avancés de l'inflation me permettent d'être optimiste pour les chiffres d'août et septembre et même octobre. Donc les trois mesures de l'inflation, le PCE, le CPI et le PPI, vous avez compris, pour se projeter sur cette inflation future qui a beaucoup de lag par rapport à l'inflation temps réel, il faut se tourner vers les indicateurs de l'inflation temps réel que sont Trueflation, Inflation Nowcasting, Zillow Zori pour l'inflation immobilière en temps réel, le BLS New Tenant Rent Index qui est l'inflation en temps réel en plus selon le ministère du Travail des États-Unis, donc ils ont les chiffres. La composante inflation des PMI, le prix des voitures en temps réel qu'on peut voir sur Trueflation ou sur les sites automobiles, comme la Centrale en France par exemple, le prix des assurances automobiles et pour l'inflation immobilière et pour l'inflation des matières alimentaires et de l'énergie, et le prix du pétrole et des matières premières agricoles, sachant que là aussi, il faut plusieurs mois pour que les nouveaux prix de matières premières se traduisent dans les biens de consommation alimentaire. Donc, et vous allez voir que 90% de tous ces indicateurs avancés sont optimistes. Et en même temps, donc ça veut dire qu'ils vont arriver en même temps favorablement dans l'inflation officielle ces prochains mois. Ce qui me permet, moi, de dire que la Fed va pivoter soit le 18 septembre, soit le 7 novembre, et d'afficher ma confiance sur ce scénario. Alors, regardons d'abord Trueflation. C'est le premier indicateur avancé qui permet d'être très optimiste pour la plupart des composants de biens et services, mais attention aux frais de santé, 20% du PCE, et aux assurances, effectivement, là, il y a un sujet. Effectivement, vous regardez Trueflation, c'est la chute libre. C'est la chute libre. Alors, les chiffres de l'inflation de juillet qui concernait juin ont déchu. Mais parce qu'en juin, l'inflation en temps réel était haute. Regardez ce qui se passe. L'inflation en temps réel sur juillet s'effondre, 1,38. Sauf qu'elle a commencé à s'effondrer en juillet. Donc elle va arriver dans l'inflation officielle sur les chiffres d'août-septembre, voire octobre. Août minimum, puisque l'inflation d'août, c'est celle de juillet. Mais comme il y a un lag entre l'inflation temps réel et le report dans les inflations officielles, ce sera peut-être les chiffres de septembre ou octobre, vous comprenez bien la logique. Mais là, c'est significatif, l'effondrement de Trueflation. Alors, dans ses composantes, notamment, alors, food and beverage, l'inflation alimentaire est à zéro. L'inflation immobilière, elle est à 1,19. Regardez quelque chose. Dans l'inflation officielle, l'inflation immobilière est à 5,2. Elle est à 5,2. Or, en temps réel, elle est à 1. Et je vais même vous montrer, après Trueflation, d'autres baromètres avancés de l'inflation immobilière, elle est négative. Le taux d'inflation des nouveaux loyers immobiliers, c'est moins 1%. Et ce moins 1%, il va falloir plusieurs mois pour qu'il arrive dans le chiffre officiel qui est encore à plus 5. Mais donc on sait qui va arriver. Et regardez quelque chose d'intéressant. Le poids du logement dans le CPI, c'est moins dans le PCE, mais c'est 33% du CPI. Donc nous avons une garantie qu'un bon tiers du CPI dans ses composantes immobilières va chuter en négatif. Ça, c'est vraiment ce qui me permet d'être optimiste. Et je vais vous montrer, regardez ici, j'ai des super indicateurs avancés de l'inflation immobilière qui confirment ce que dit Trueflation. Donc, Trueflation nous dit beaucoup de choses positives, notamment donc pour l'inflation énergétique, les transports. Alors, ça va dépendre bien sûr aussi du prix du pétrole volatile, les tensions géopolitiques. Ok, très bien, on va voir, on va en parler. Mais l'inflation des nouvelles voitures est à moins 2. Les frais de santé qui commencent à rebaisser. Alors, les frais de santé, attention, ça c'est un problème. Les frais de santé ont remonté. Les taux d'inflation de frais de santé, ça repart un peu à la baisse. Mais c'est un souci parce que cela représente 20% du PCE. Et c'est probablement ce qui a expliqué la déception sur le PCE qui a été mise à jour il y a 10 jours. Mais tout le reste est en chute. Notamment les services. Tout le reste est en chute. Donc, ça c'est quelque chose qui permet d'être optimiste, c'est le premier élément. Ensuite, vous avez donc l'algorithme Inflation Nocasting de la Fed de Cleveland, qui est plutôt neutre. Mais j'ai remarqué quelque chose avec lui. En général, quand il est trop optimiste, il se fait prendre à revers, et trop pessimiste, il se fait prendre à revers. Il est plutôt moyennement optimiste pour les chiffres de juillet qui vont être publiés en août, notamment pour le CPI et le Core CPI. Moi, je pense qu'on aura des meilleurs chiffres que ça. Mais, par contre, l'inflation trimestrielle annualisée pour le PCE et le CPI est déjà sous 2. Maintenant, on arrive au plus intéressant. Je vous ai montré le poids du logement dans le CPI et le PCE. Dans l'indice officiel d'inflation, le logement est encore à plus 5. Eh bien, regardez l'inflation temps réel. Tout d'abord, en regardant l'indice d'inflation immobilière officielle en temps réel, donc les nouveaux loyers selon le New Tenant Rent Index, qui nous vient du ministère du Travail des États-Unis, dernière mise à jour, moins 1. Ben voilà, moins 1. Donc ça, ce moins 1, on sait qu'il va arriver dans l'inflation officielle. Ensuite, vous en avez un autre, qui est le Zillow The Re, pareil, 1,88. 1,88. Donc, il y a des choses quand même, 1,29 même, 1,29 par rapport aux 5 officiels. Et nous savons que ce 1,29, regardez dans le passé, petit à petit, l'inflation officielle va y venir. Donc, que ce soit le BLS, New Tenant Index, le Zillowsory ou Trueflation, tout nous dit que la composante immobilier, la composante immobilier du CPI va s'effondrer. En tout cas, va chuter ces prochains mois. Ce qui va aider le core CPI à baisser. Alors ensuite, il y a bien sûr toutes les autres composantes qui sont importantes à regarder. Il y a effectivement le problème de l'inflation des services. Ça, c'est la plus dure à prédire. Et le problème de l'inflation des services, c'est que c'est 61% du PCE. Là, c'est un vrai souci, parce que, en particulier, les services d'assurance, qui pèsent un bon 8% du PCE. Alors, comment se projeter sur l'inflation des services? Je vous rappelle que l'économie américaine, à 80%, est une économie de services. Pour cela, nous avons la composante inflation du PMI des services, pour Purchasing Manager Index. Alors, cette composante inflation du PMI des services est revenue au monde d'avant, mais elle est très large, elle couvre tous les services. Le problème, c'est le coût des... Si vous regardez Trueflation, l'inflation des services est aussi revenue à 0, 1, 1,5. Donc, c'est quand même assez bas. Alors, me direz-vous, pourquoi dans l'inflation officielle, les services sont encore à 5,1 et loin du monde d'avant, ce qui est un vrai souci? Eh bien, c'est en grande partie du fait du poids du coût des assurances. Et en particulier, déjà, les assureurs se gavent. Vous avez probablement remarqué, les augmentations, quelle que soit l'assurance, habitation, voiture, tout ce qu'on veut, ça va monter significativement d'une année à l'autre. Les taux d'inflation des assurances restent énormément élevés, à deux chiffres. Le taux d'inflation des assurances automobiles, c'est 15%. C'est un truc de malade. Ce que nous savons, c'est que petit à petit dans le temps, le taux d'inflation des assurances automobiles s'aligne sur le taux d'inflation des nouvelles voitures. Et le taux d'inflation officiel des nouvelles voitures, il vient de passer sous zéro. Donc combien de temps cela va mettre pour que le taux d'inflation des assurances automobiles revienne à quelque chose qui ne soit pas à deux chiffres, ça va prendre encore quelques mois. Mais là aussi, nous pouvons être optimistes. Ensuite, vous avez bien sûr l'inflation des matières, l'inflation énergétique et l'inflation alimentaire qui représente quand même un poids important dans le CPI et le PCE. Alimentation, boisson, 14% du CPI et 15% du PCE. Donc, et le pétrole, le prix de l'énergie est dans la catégorie transport pour le CPI. Donc au final, alimentation, boisson, transport, énergie, c'est 30% du CPI. Donc là aussi, c'est important. Lorsque vous regardez Trueflation, l'inflation alimentaire est à zéro. Lorsque vous regardez le prix des matières premières agricoles en temps réel, ce ne sont que des tendances baissières qui sont revenues tout en bas, notamment le prix du blé. Là aussi, ça permet d'être optimiste. Alors reste le prix du pétrole. Eh bien, le prix du pétrole, au stade actuel, il est en range. Naturellement, il ne faudrait pas en sortir par le haut avec les tensions géopolitiques. Ça, c'est le risque, effectivement. Mais pour le moment, c'est un facteur neutre. Donc là, j'ai passé en revue un certain nombre d'indicateurs avancés de l'inflation en temps réel qui me permettent de dire que nous aurons en août-septembre de bonnes surprises, en particulier pour le CPI. Par contre, c'est vrai, le PCE, qui est l'indice d'inflation favori de la Fed, il y a des doutes du fait des frais médicaux et des assurances qui ont vraiment un poids important dans le PCE et à moins de forcer les assureurs à arrêter de nous voler, bon, ça va prendre un peu de temps. À un moment ou à un autre, ils n'auront pas le choix.
Bon, donc ça fait partie des éléments de doute. Prochaine mise à jour du CPI, c'est le 14 août. Alors, la semaine dernière, les taux obligataires US donnent des signaux techniques baissiers. Ça, je voulais refaire un point là-dessus parce que vous savez que j'accompagne ça depuis des mois et j'en ai remis une couche lors de la conférence Swissquote Trading à Lausanne en vous expliquant qu'il fallait arbitrer une partie de votre portefeuille des actions vers les obligations. Il y a eu depuis une vraie hausse des obligations, je suis très satisfait. En lien avec les signaux techniques baissiers que donnent les taux obligataires du marché, du fait de la corrélation inversée entre les taux obligataires du marché et le prix des obligations, il y a eu des signaux techniques baissiers court terme. Nous n'avons pas encore les signaux techniques baissiers moyen terme, mais c'est ça qu'il faut suivre et ça peut arriver lors des 2 prochains mois. Si vous regardez le rendement américain à 10 ans, prenez par exemple la moyenne mobile à 200 jours. Bon. Regardez ici ce qu'était la fin d'un cycle haussier, lorsque le taux obligataire passait sous sa moyenne mobile à 200 et qu'elle prenait une pente baissière. Là, c'est le contraire avant l'inflation, pente haussière. Et là, le taux obligataire est passé sous sa 200 et la pente commence à être baissière. Si vous prenez le taux obligataire à 2 ans, ça fait aussi changement de cycle à la baisse ici, comme en 2018. Vous y ajoutez les enseignements du système Ichimoku journalier. Je vous avais montré le signal baissier donné mi-juin. Bon, on a eu une belle baisse, ce qui signifie une belle hausse du prix des obligations. Je vais vous remontrer ça ici en vous donnant par exemple l'exemple du TLT. Voilà. Bon, belle reprise depuis juin du prix des obligations. On peut même regarder ça avec un ETF générique, le prix des obligations US depuis début mai. A quand même progressé significativement. Et vous pouvez regarder plusieurs durations, mais le 7-10 ans a aussi significativement progressé. Donc maintenant, attention, nous n'avons pas encore les signaux techniques baissiers moyen terme. Je passe pour ça sur l'horizon de temps hebdomadaire. Nous avons un prix du 2 ans américain qui est en train de traverser le nuage. Mais le vrai signal de baisse, c'est lorsqu'on décroche sous le nuage et que la lagging span confirme. Donc ça, c'est vraiment à suivre. Et le jour où nous aurons ces cassures techniques baissières sur les taux, eh bien, cela validera vraiment cette stratégie que je vous propose depuis plusieurs mois de hausse du prix des obligations. Et c'est aussi parfaitement valable sur le 10 ans américain. Alors maintenant un mot sur le marché action américain, S&P 500, S&P 500 QP modéré, Russell 2000, les secteurs de l'AI, analyse quantitative, le sentiment du marché. Alors nous avons eu la semaine dernière les résultats des GAFAM. Bon, que dire du S&P 500? La même chose que la semaine dernière. Il y a cette hypothèse que la cinquième vague de la Grande 3 soit terminée. Ok, très bien, parce qu'il y a des divergences en données hebdomadaires. Bon, entre les stars de la tech, il y a eu du bon, du moins bon. Au final, nous n'avons pas, tant qu'en fait on tient un support, tant que le marché tient en données journalières le nuage du système Ichimoku, nous ne pouvons pas dire, nous ne pouvons pas affirmer que la grande 3 est terminée. Donc c'est vraiment le support à surveiller, ce support des 5400, 5443 points. Et si effectivement le contrat futur S&P 500 devait passer en dessous, cela viendrait confirmer que nous entrons dans une grande 4. Alors, la bonne nouvelle, c'est qu'il y a quand même une rotation, j'en parlais déjà depuis 2 semaines, qui se confirme, favorable au rattrapage des small et des mid-cap américaines, avec notamment donc le Russell 2000 qui a donné ce signal positif et qui reste haussier maintenant, tant qu'il se maintient au-dessus des 2132 points, ce sera un niveau d'achat si on y revient. De manière générale, le S&P 493 rattrape son retard, puisque le S&P 493, lui, est sorti par le haut de cette pattern en triangle et poursuit sa tendance haussière. Donc, c'est pas un effondrement du marché action, c'est une rotation des stars de la tech vers d'autres secteurs. Si d'ailleurs vous allez regarder du côté des secteurs des États-Unis, est-ce que les stars de la tech ont fini leur consolidation? Bon. Moi, ce que je me disais sur ce secteur qui a été vraiment le plus performant, les stars de la tech américaine sont rassemblées dans ces 2 secteurs, Communication Services et Information Technology. Le S&P 500 étant divisé en 11 secteurs. Je me disais qu'il fallait revenir chercher la moyenne mobile à 200 jours pour repartir plus sereinement. Ça reste dans l'ordre des possibles, mais là aussi, vous voyez que le nuage journalier du système Ishimoku tient le choc. Au contraire, vous avez d'autres secteurs qui profitent de la baisse des taux du marché, et cette rotation sectorielle, je vous avais notamment montré dans la vidéo il y a 2 semaines, où j'ai fait quels sont les secteurs qui sont gagnants en cas de pivot, notamment le secteur des valeurs financières, mais pas que. Mais en particulier donc le secteur des valeurs financières. Alors maintenant, le S&P 500 a-t-il terminé sa consolidation? Je ne pense pas que le surachat soit dégonflé sur les stars de la tech. Selon le sentiment du marché AAII, le réservoir des acheteurs est encore bien rempli. Et lorsque vous regardez l'analyse quantitative, eh bien à court terme, vous avez un pourcentage d'actions au-dessus de la moyenne mobile à 20 jours qui a rejoint la zone haute et qui rebaisse, qui peut se traduire par davantage encore de pression à court terme. Pour ce qui est de la tendance long terme, il n'y a pas de sujet à les préserver. Donc la phase de reprise depuis octobre 2022 n'est pas préservée, n'est pas menacée. Et ensuite, vous avez le pourcentage d'actions au-dessus de la moyenne mobile à 50 jours qui est en zone haute, mais qui n'est pas encore en zone de survente. Donc les signaux sont un peu mitigés sur le court terme. On voit bien qu'il y a une difficulté, c'est qu'il y a un passage de témoins des stars de la tech vers des secteurs plus cycliques de la value, vers les small et mid cap. Bon, au sein du S&P 07, il y a eu du bon, du moins bon. Meta, Nvidia, en face de ça, il y a eu Microsoft, Google, ça se neutralise un peu. En tout cas, sur le S&P 500, le support à surveiller, c'est le niveau des 5440 points. Et sous ce support, effectivement, on aura une confirmation technique que nous sommes entrés dans cette grande vague 4. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. En tout cas, voilà, moi je reste optimiste pour les prochaines mises à jour de l'inflation et je pense que cela permettra un pivot de la Fed, soit le 18 septembre, soit le mercredi 7 novembre. Merci à tous de votre attention.